Et tout de suite, c'est le moment de retrouver notre émission Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement. Bienvenue sur Fréquence Mistral dans Un moment pour la Terre, une émission donc mensuelle. Elles vont se présenter, deux personnes sont venues. Il s'agit de Jeannine Brochier et Morgane Verbe. On les écoute se présenter. Bonjour.
Bonjour, je suis Jeannine Brochier et je suis de la fédération FNE 04, France Nature Environnement 04.
Bonjour, Morgane Verbe de l'association Le Colibricole. En fait, FNE est une fédération d'associations et donc Le Colibricole est membre de cette fédération au niveau départemental. Et donc on agit ensemble, tant au niveau du département que de la région. Alors Le Colibricole, c'est une association qui est née sur le territoire du plateau de Valensole en 2015. Et son objet, c'est de promouvoir le développement du compostage de proximité. Plus généralement, on agit sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Et comme sur notre territoire, cette question, elle est encore pas très développée, les actions de l'association sont très étendues au niveau de l'éducation à l'environnement, donc auprès de différents publics, que ce soit des enfants ou des familles, ou même des élus. Et donc aujourd'hui, on est venu pour parler de sol.
Les sols, alors voilà, c'est encore, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un vaste sujet. Alors vous allez nous parler quoi, de la qualité des sols de...
Je commence par parler de l'origine des sols, parce que c'est très intéressant. Vous savez que la vie est née dans l'eau, donc c'est une vie qui est sortie de l'eau il y a beaucoup de millions d'années, qui s'est adaptée au milieu sans eau. Au milieu aérien. Et ça a été très compliqué parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre son eau. Si on veut rester vivant, les êtres vivants ont ce problème majeur. Et les sols sont très utiles à cette sortie. Ils ont été créés par les microbes, les microbes qui sont sortis de l'eau et qui se sont adaptés au milieu terrestre aérien en faisant des cavernes dans la terre stérile. Et après, ils ont transformé cette terre stérile, qui était stérile avant, en une terre vivante. Et les sols sont apparus. Alors, les sols d'il y a des millions d'années, c'était certainement pas les sols de maintenant. Les sols de maintenant, c'est des vieux sols. C'est des sols très compliqués et très importants pour la vie.
Ce qui nous tient à cœur au Colibricole, donc on œuvre pour développer des actions de compostage de proximité, c'est-à-dire transformer nos déchets organiques au plus près de là où on les produit, donc au sein même de nos villages. Donc le lien avec le sol, c'est que le compost produit via ces actions-là a pour objet de rendre un peu de matière organique à nos sols qui en ont bien besoin, notamment sur le plateau. Et donc un petit focus sur l'importance d'un sol vivant. Jeannine a parlé de la formation des sols a mis des millions d'années. Les végétaux ont mis aussi des millions d'années. La première fleur n'est pas arrivée tout de suite. Un sol, c'est pas un substrat inerte. Un sol... tel qu'on l'entend, c'est un sol plein d'organismes vivants, de faune et de flore. Et parmi la faune, alors on peut trouver tout un tas de choses comme les plus connues, les plus médiatiques, ce sont les vers de terre. On écoutera une petite chanson tout à l'heure.
Oui.
Sur le vers de terre. Donc les vers, alors plutôt les lombrics, les cloportes, les colamboles, les champignons, des tardigrades, des acariens, des nématodes, des protozoaires, des fourmis, des cloportes, des mille-pattes, mais aussi des petits mammifères, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux. Il y a tout ce monde-là qui travaille à ce qu'un sol soit vivant. À quoi sert un sol ? Un sol fertile, un sol vivant, il est vital à notre survie humaine. Et dans le sol, il y aurait un quart des espèces vivantes sur notre planète. Donc c'est pas négligeable. Et on n'y fait pas trop attention parce que il est un peu caché, il est sous nos pieds et qu'on n'y voit pas bien de ce qu'il y a dedans. Alors à quoi sert notre sol ? Notre sol nous rend des services. Les services rendus par la nature s'appellent des services écosystémiques. Ce sont les écosystèmes qui, par leur vie et les chaînes alimentaires présentes, nous rendent des services. Alors le sol, lui, il permet à certains éléments, la matière organique, le carbone, l'azote, de faire ses cycles, donc de se transformer, de se minéraliser et d'être utilisé par les organismes vivants et de permettre ainsi la production primaire, qui est la production des végétaux, de l'herbe, qui va être ensuite mangée par des herbivores, et ces herbivores-là seront mangés par des carnivores. On a appris ça à l'école, hein, c'est la chaîne alimentaire, mais tout part du sol, du coup, pour cette production primaire. Le sol permet la dégradation de cette matière organique et sa minéralisation pour rendre la matière organique disponible pour les plantes afin que celles-ci puissent pousser. Et donc le sol a un pouvoir de rendre fertile, une fertilisation naturelle qui permet à la végétation donc de pousser. Et cette végétation va être d'autant plus diversifiée que le sol est vivant. Et une végétation diversifiée va appeler une biodiversité animale de plus en plus grande, qui elle-même va aussi fertiliser le sol par ses excréments, et ainsi de suite. La vie est bouclée. Le sol vivant nous rend tout un tas de services qui sont peut-être invisibles.
Au début de la Terre, c'était une boule de feu, c'était un volcanisme intégral, et après, la Terre s'est refroidie, et la vie est sortie de l'eau. Enfin, ça s'est refroidi parce qu'il est tombé beaucoup d'orages d'eau, l'atmosphère s'est condensée en eau. Et cette eau, elle a formé les lacs et les mers. Et la vie était dans l'eau et elle est sortie. Et elle a transformé les sols stériles et en sols vivants. C'est une transformation qui a été très très longue, qui a duré des millions et des millions d'années. Maintenant, les sols, c'est un monde à part entière. C'est la base de tout, ce qu'a dit Morgane, des chaînes alimentaires et de tout.
Pour revenir sur l'importance du sol vivant et les services qu'il nous rend, donc il permet à la matière organique de faire son cycle, de se décomposer, d'être assimilable par les plantes. Donc il régule la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes qui y poussent. Il permet aussi une résistance aux ravageurs et aux maladies pour ces plantes, puisqu'un sol vivant va de lui-même réguler et faire en sorte d'assurer la santé des plantes sur ce sol. Et il maintient aussi une structure, un sol vivant a une structure qui permet à l'eau et à l'oxygène de circuler et au carbone d'être stocké dans le sol, puisque le sol a un rôle aussi de stockage du carbone. Il permet au sol d'être sain, un sol vivant permet au sol d'être sain, donc un rôle de détoxification, un rôle de croissance des végétaux. Et un rôle aussi par rapport à la pollinisation, puisque certains insectes pollinisateurs, comme les abeilles solitaires, font des terriers. Et ont certainement bien plus d'attrait à faire un terrier dans un sol vivant que dans un sol mort. Janine, tu as autre chose à ajouter?
Oui. On fait une évolution parallèle. Le milieu des sols dépend du sous-sol et dépend de l'atmosphère. Et la composition chimique du sous-sol et intervient beaucoup sur les sols qui sont extrêmement différents dans les régions granitiques sans calcaire et les régions comme chez nous où il n'y a que du calcaire et pas de granit. Tous ces êtres vivants dont parle Morgane sont des formidables transformateurs de matière minérale en matière organique, ce qu'elle vient de dire. Les sols sont le résultat de ces transformations. Au départ, les minéraux qui sont présents vont être retrouvés et transformés quand tous ces animaux auront fait leur chimie organique et transformé ces pierres stériles en sol meuble et aptes à la vie. Parce que la vie, c'est l'eau, l'oxygène, et les gaz, et le support minéral. Et ce support minéral, il est extrêmement important. Et la vie le transforme en sol efficace.
Alors, quelles sont les atteintes à la vie des sols? Alors, à mon sens, la première atteinte, c'est l'artificialisation, puisqu'on est de plus en plus nombreux, donc on se développe, donc on construit, on développe des infrastructures, des routes, des centres commerciaux. La moindre construction, la bétonisation des sols, entraîne leur mort, forcément. Forcément, puisque le sol ne peut pas vivre sans l'atmosphère avec qui il a des échanges, les échanges notamment gazeux, les échanges d'eau et le transfert d'animaux, de faune et de flore. L'artificialisation est une des atteintes à la vie du sol et de nombreuses assos se battent là-dessus. Est-ce que FNE à des actions contre l'artificialisation des terres.
On est très actifs sur l'urbanisation et toutes les nouvelles lois qui sont apparues depuis 20 ans, ça fait des progrès, mais je trouve que c'est très théorique, mais il y a des difficultés pour aboutir à des solutions qui sont intéressantes pour les sols, parce que pour l'agriculture, les sols sont, dans notre région, les plus beaux sols agricoles de France et peut-être du monde, parce que c'est des sols irrigués, il y a de l'eau, c'est des sols qui sont argileux, donc c'est l'argile, ça vient de la dégradation du granit au moment, il y a des millions d'années. Ces argiles ont des propriétés incroyables parce que c'est des phyllosilicates et c'est comme des petites millefeuilles. Les cristaux, ce sont des millefeuilles et chaque feuillet est capable de s'ouvrir, de s'entrebâiller et de récupérer de l'eau et des minéraux et des tas de molécules. Tout le monde connaît l'argile sèche qui est poussiéreuse, pas très intéressante, mais l'argile qui est humide, c'est un véritable foyer de vie. Parce que, au début, dans les sols, ils se sont installés sur de la pierre. Ils ont dégradé cette pierre en les minéraux constitutifs de cette pierre. Et ils ont fait avec ces minéraux des associations absolument incroyables. Parce que les microbes du sol, enfin, microbes, ça veut dire petits animaux, ça veut dire. C'est pas forcément mauvais. On dit je fais le ménage parce que j'enlève le microbe. Il y a des produits chimiques qui sont antimicrobiens et c'est une catastrophe ça parce que dans les sols, bon, les microbes c'est essentiel parce que c'est les premiers transformateurs de la matière minérale des pierres en matière qui sont aptes à abriter la vie. Et la vie, c'est une synergie, c'est une entre le minéral et l'organique, des microbes. Et les microbes, c'est toute une écologie, l'écologie microbienne. Morgane en a parlé. C'est absolument essentiel dans les sols. Mais chez nous, sur nous, par exemple, on est très fort pour l'hygiène. On est très attentif à ce que la maison soit propre et les vêtements soient propres et tout soit propre. Mais il faut pas être trop propre parce que dans les sols, c'est très, très sale, les sols. Hein. Il y a des kilos et des kilos de microbes. Je sais plus les chiffres, je les ai pas relevés, mais certainement Morgane les a. Il y a dehors de la pierre. Après des kilos de microbes, et après, il y a tous les animaux qui viennent après.
Les organismes du sol, on les classe en fonction de leur taille. Donc, il y a les toutes petites bêtes qui sont la microfaune, donc les bactéries, les champignons, les protozoaires et les nématodes. Donc, ils font de 1 à 100 micromètres. Ensuite, on a la mésofaune, c'est ceux qu'on arrive à distinguer avec nos yeux. Quoique, les plus petits de la mésofaune, comme les tardigrades, retenez le nom des tardigrades, ce sont des organismes extraordinaires qui peuvent, suite à conditions extrêmes, se déshydrater à 99%, sembler comme morts et retrouver la vie une fois les conditions réunies. On a les collemboles qu'on peut observer avec nos yeux et qui sont très présents dans le compost, on y reviendra tout à l'heure. Les acariens font aussi partie de la mésofaune. Et puis il y a la macrofaune, au-delà de 2 mm, on parle de macrofaune, donc on a les vers, les fourmis, les cloportes, etc. Et puis la mégafaune, les petits mammifères font partie de ce groupe de la mégafaune. C'était un petit parenthèse de ma part sur les organismes du sol et je voulais revenir sur les pressions et les atteintes à la fertilité du sol. Tu parlais un peu d'agriculture. Ben, l'agriculture intensive, une agriculture non respectueuse de l'environnement atteint les sols par les labours trop profonds, les monocultures, puisque il manque de biodiversité, donc les monocultures nécessitent souvent une fertilisation chimique et l'usage de pesticides, donc de nombreux intrants issus de la chimie. Et ces trois éléments, donc les intrants, le labour et les monocultures, ben, sont des pratiques qui font pression sur un sol vivant, qui empêchent un sol vivant de se mettre en place. une agriculture respectueuse de l'environnement aurait tendance à vouloir reproduire ce qui se passe dans la forêt, par exemple. Et une troisième atteinte à la vie du sol, c'est la déforestation, qui, une fois la perte de biodiversité, puisqu'on déforeste, donc on enlève les espèces végétales, mais les espèces animales s'en vont elles aussi, contraintes et forcées. Cela entraîne de l'érosion et ce qu'on appelle les catastrophes dites naturelles. Voilà pour ce petit point. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça ? On va en parler, hein, Janine, de ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle. Mais avant, je voulais rebondir, tu avais parlé des argiles. Alors, j'avais noté, tu avais parlé des argiles. Et un sol vivant, il y a de l'humus. Alors, quand on se promène dans la forêt, c'est mou sous nos pieds. C'est l'humus qui se forme suite à la chute des feuilles chaque année. Et quand on va en forêt, là, c'est le temps pour ramasser les champignons. Il n'y a aucun d'entre nous qui ne nage dans des mètres et des mètres de feuilles mortes, puisque chaque année, ces feuilles tombent et sont dégradées par la vie du sol. Cet humus, qui est issu de la transformation des feuilles mortes et des débris animaux et d'autres végétaux, se transforme et permet, avec les argiles présentes dans le sol, la formation du complexe argilo-humique, qui lui va... Il est important, ce complexe argilo-humique, pour une bonne structure du sol. La structure du sol, c'est... si on prend une bêche et qu'on fait un trou dans un sol, que ce soit le sol de notre jardin, le sol de la forêt, on peut avoir différents échantillons pour comparer. On va observer comment le sol se délite. On va observer, est-ce qu'on observe des petits grains de couscous ? On va observer s'il y a des pores, s'il y a des galeries de vers de terre notamment, mais pas que, des galeries qui auraient pu être créées par les racines des végétaux et qui permettent la circulation de l'air, de l'eau. Donc ce complexe argilo-humique est très important et il dépend du taux de matière organique, de la vie du sol également. Alors Janine, moi je voudrais bien, pourrait passer parce que il y a beaucoup de choses à faire à notre échelle quand même. Hein. Ouais. On peut faire plein de choses, même si on ne peut pas changer le modèle agricole, on ne peut pas changer l'artificialisation. On peut manifester contre les constructions de centres commerciaux, évidemment. À notre échelle, et ça c'est le cœur de métier de l'association Colibricole, on peut composter. Alors, composter dans son jardin ou dans sa cuisine, dans son jardin avec dans un composteur ou en tas, c'est possible. Dans sa cuisine avec un lombricomposteur, peut-être que certains des auditeurs en ont un. Si vous avez des difficultés, on ne va pas tout évoquer aujourd'hui, mais on peut répondre à vos questions au Colibricole. On est là pour ça, pour développer toutes ces démarches et faire en sorte que tout le monde aille dans le bon sens.
Vous êtes basé où
À Valensole.
À Valensole.
Alors, et composter, outre dans sa cuisine avec son lombricomposteur, on peut composter entre voisins. Et c'est cette solution qui, au Colibricole, nous semble avoir beaucoup d'avenir, et notamment pour nos territoires ruraux, puisque nos villages sont assez éloignés les uns des autres. Et si, dans un monde idéal, tous nos déchets organiques pouvaient rester sur le territoire communal et se transformer en compost pour enrichir nos sols, ben, je pense qu'on aurait gagné une petite chose, une petite part du défi. Alors, composter, c'est quoi ? C'est transformer nos déchets organiques, donc nos déchets issus du vivant. Hein, la matière organique, c'est tout ce qui constitue la vie sur Terre. C'est, on peut retenir CHOMPS, C-H-O-N-P-S, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Donc, le compost, c'est transformer la matière organique en un élément stabilisé qui va avoir un rôle de fertilisation. Mm-hmm. Ouais. Et qui va avoir un rôle d'amendement, c'est-à-dire il va participer à la bonne structure du sol, puisqu'il va permettre la formation du complexe argilo-humique et donc la circulation de l'eau, de l'air, le passage des vers et des racines, etc. Et un équilibre dans le sol. Donc comment on fait pour composter ?
Alors oui, justement, il s'agit pas que de mettre les déchets alimentaires dans un composteur. Ouais. Il y a une histoire de broyat aussi.
Oui. Alors
comment
le broyat
se le procure et...
Le broyat, c'est la matière la plus utilisée pour les sites de compostage partagés, comme le Colibricole est installé à Valensole, qui est libre. Vous pouvez venir le visiter si vous le souhaitez, tous les premiers samedis du mois. Permanence compost. Donc le broyat, c'est du broie qui est passé dans une machine, un broyeur, et on obtient différentes qualités de broyat, tant par la qualité des déchets verts qui ont été broyés que par la qualité du broyeur. Donc on peut broyer des déchets verts, les deux qualités de déchets verts, ce sont les déchets issus de feuillus, donc les arbres qui perdent leurs feuilles tous les ans, et les résineux. Alors, il y a les résineux ont mauvaise presse, mais un broyat résineux peut installer au sol et composter, ne pas être nocif. On parle beaucoup, le broyat résineux, c'est acide, moi je ne l'utilise pas. À une époque, on évoquait 20% maximum de résineux dans le stock de broyat. Mais aujourd'hui, ces 20%, on a plus ou moins démontré par des tests au niveau du jardinage, en tout cas, que on peut aller au-delà. Donc le broyat, la qualité, donc feuillu résineux, avec une proportion des deux, c'est bien. Et la qualité due au broyeur, pour faciliter le compostage, on recommande que ce broyat soit assez fin. Donc, j'entends par là, pas des trop gros bouts de bois. Parce que sinon, ces bouts de bois, on va les retrouver en fin de processus et on va devoir les... C'est pas très grave, mais on les remettra avec le stock de broyat, puis ils repartiront pour un tour, pour un tour de compostage.
Il y a une histoire de ventiler aussi, est-ce qu'on remue son compost
Bien sûr.
À certains moments
Alors, le compost, c'est un processus de dégradation de la matière organique avec de l'oxygène. Donc, c'est un processus aérobie. Le contraire, c'est une autre méthode de dégradation de nos déchets organiques. C'est la méthanisation, qui est un processus de dégradation de la matière organique, mais en anaérobie, donc sans oxygène. Imaginez, vous mettez vos déchets de cuisine dans un sac plastique, vous le fermez, vous laissez ça quelques semaines. Quand vous l'ouvrirez, ça va sentir mauvais. Ça sentira le méthane. Donc ça pue. Ça, c'est la méthanisation. Le compostage n'est pas de la méthanisation, donc c'est avec de l'oxygène. Donc il y a 4 paramètres à gérer pour le compostage. L'oxygène, l'eau, le carbone et l'azote. Le carbone et l'azote sont des éléments organiques contenus dans nos déchets. L'eau est contenue dans nos déchets de cuisine, qui sont très humides. Les épluchures de carottes, etc. Les épluchures de légumes, pardon, sont humides. Donc ils contiennent déjà de l'eau. Et l'oxygène, ça va être à nous de faire en sorte que notre tas de matière dans le composteur soit aéré. Donc, effectivement, il faut mélanger, il faut brasser. Oui, il faut brasser, il faut s'en occuper un petit peu, mais pas tant que ça. Je vais dire que si on composte dans notre jardin, au niveau domestique, on va sortir notre petit seau d'épluchures environ une fois par semaine. Et à chaque fois qu'on dépose nos épluchures dans le composteur, on utilise une fourche, par exemple, et on va brasser cet apport avec les 20 premiers centimètres du tas qui est déjà là. Et ajouter ensuite un peu de broyat. Alors, souvent, on n'a pas de broyat, en fait. Nous, sur les sites de compostage partagé, on s'assure d'avoir du broyat et qu'il y en ait tout le temps. Sinon, c'est un projet qui ne marchera pas. Si on ne peut pas s'assurer de l'approvisionnement en broyat, ça ne marchera pas. Mais à la maison, on peut faire autrement. On peut combiner différents types de déchets. Alors, il y a les feuilles mortes. On peut, via un ébéniste, un menuisier, récupérer un peu de sciure, de copeaux de bois plutôt, des copeaux que la sciure. Mais pas uniquement des copeaux de bois. Ce serait bien donc de les mélanger avec des feuilles mortes, mais aussi du carton de PQ, les cartons de rouleaux de sopalin, les cartons de boîtes d'œufs, les brindilles, la tonte, si on tond. Quand on s'occupe du jardin, tout ce qui est organique peut aller au compostage. Alors pour la tonte, ce qui est bien, c'est de la laisser sécher avant, de la mettre en mélange avec d'autres éléments. Et cette matière, alors le broyat, comme vous dites, ou un mélange de différentes matières, parce qu'on n'a pas de broyat, mais on arrive à récupérer un peu chez le voisin des feuilles mortes, le menuisier un petit peu. L'idée, c'est que ce broyat soit un peu mixte, des morceaux grossiers, des morceaux plus fins. Et se mélangeant aux déchets de notre cuisine, on observe ça, que nos déchets secs, broyat, matière sèche, on appelle ça aussi la matière carbonée, puisque ce broyat ou cette matière sèche est issue du bois et contient beaucoup de carbone, tandis que nos déchets de cuisine, eux, contiennent beaucoup d'azote. Le compost, c'est un savant mélange de carbone et d'azote. D'ailleurs, on parle, quand on analyse les composts, on parle de rapport carbone sur azote, le rapport C sur N. Ces deux éléments sont la nourriture de toute la faune du compost qu'on a cité et qui est aussi présente dans les sols. Donc en fait, on apporte de la nourriture à des petits animaux qui vont venir les manger. Et il faut qu'on s'assure que ces animaux aient suffisamment d'oxygène et suffisamment d'eau pour vivre. Sinon, ils vont partir. Donc, le rôle de nous, de l'homme, dans le cadre du compostage, c'est de s'assurer de la bonne gestion de ces quatre paramètres. Le carbone, l'azote, l'oxygène et l'eau. Donc certes, dans notre région, en été, on arrose souvent le compost parce qu'il est trop sec. Si on n'arrosait pas le compost, si on s'en va deux mois en été et qu'on a un compost qui on se dit putain, il va sécher, ben c'est pas grave. Toute la vie dans le compost, toute la faune du compost va s'en aller. Et puis quand on reviendra, ben on remettra les paramètres en route, on remettra de l'eau et ils vont revenir. Et donc le processus ce sera juste arrêté momentanément.
Est-ce qu'on fait une toute petite pause musical avec le ver de terre de Louis Chédid?
Allez, on va aller.
Et puis après, on va rassembler les éléments importants que vous n'avez pas eu le temps de nous dire.
Oui.
Allez, on écoute ver de terre.
J'aurais pu naître ver de terre, pourquoi pas? Descendre d'un coléoptère, tralala, tralala. J'aurais pu vivre sans m'en faire, pianissimo, en creusant des trous sous la terre, incognito. Mais me voilà, avec mon âme, animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. J'aurais pu être un lion superbe, dangereux, bronzer ma vie sous des soleils paresseux, échanger chaque jour de femme sans histoire, et faire le bien comme le mal sans le savoir. Mais me voilà avec mon âme, animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. Aujourd'hui que tu me quittes sans préavis, j'ai l'impression que tout s'effondre dans ma vie, et je maudis celui qui m'a fait. Moi comme je suis, avec ce cœur qui se lamente sous la pluie. J'aurais pu naître ver de terre, pourquoi pas? Descendre d'un coléoptère, mais voilà, me voilà, avec mon âme, animal. Me voilà, avec mon âme, animal. Me voilà.
Et on reprend donc un moment pour la terre sur les sols, la qualité des sols, avec Janine.
Oui, je vais compléter ce que a dit Morgane. Morgane parle du compost, j'allais dire artificiel, mais c'est pas un mot qui convient parce que on essaye de copier la nature quand on fait du compost. Mais je vais parler de la nature, moi, puisque pour faire le parallèle. Elle dit il faut broyer, mais dans la nature, c'est pas broyer, hein. Ça met le temps qu'il faut. Un tronc d'arbre, si on le broie dans une machine, c'est mieux parce que ça fait augmenter les surfaces. Parce que le problème du volume, c'est que quand quelque chose est gros, ça a peu de surface. Quand quelque chose est fin, petit, en morceaux, les surfaces sont augmentées considérablement. Et les microbes sont sur les surfaces. Et plus il y a de surfaces, plus il y a de microbes, et plus il y a de transformations chimiques, parce que c'est les microbes qui font la transformation chimique au début.
D'où l'intérêt, quand on est dans notre cuisine et qu'on doit jeter, par exemple, le trognon du chou, de le découper en petits morceaux. Pour le mettre au compost.
Voilà, les écorces d'orange aussi, voilà. Les citrons, voilà, on coupe. Je parle aussi de l'oxygène. L'oxygène, c'est très utile, c'est pour les aérobies, mais il y a Il y a beaucoup de chimies différentes dans le sol. Il y a des autotrophes, des hétérotrophes. Il y a des animaux qui sont chimiotrophes. C'est très 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 compliqué. Il y a beaucoup de cycles. On va pas en parler, mais il faut aérer, d'accord. Mais si ça sent mauvais le méthane, c'est bon quand même, parce qu'il y a des animaux qui tirent leur énergie du méthane. Nous on essaye de faire des composteurs qui sentent pas mauvais, mais dans la nature ça sent très mauvais. Dans les zones humides qui sont magnifiques, des zones magnifiques sur la Terre, il y a des feux follets la nuit. Au Moyen-Âge, ils croyaient qu'il y avait des monstres qui allaient sortir, mais c'était du méthane qui sortait. Hein. C'est tout à fait naturel, mais c'est pas bon pour nos capteurs olfactifs, mais bon, c'est très bon pour la nature. Bon, je démolis pas ce qu'a dit Morgane. Au contraire, je lui dis que il y a pas que ça, quoi, pas que. Alors, Morgane a dit il faut mettre du gazon et des feuilles. Dans la forêt, il y a pas de gazon, mais la forêt, elle fait. Elle fait quand même son travail. Mais nous, en faisant du compost, on essaye de copier la nature. Et on y arrive si on fait des choses correctes, comme Morgane a dit, qu'on prépare la chimie du sol le mieux possible. On n'a pas assez parlé des champignons, parce que les champignons sont, on connaît que les champignons qu'on mange, mais il y a des champignons microscopiques, des tonnes de champignons microscopiques qui travaillent avec les micro-organismes. Ce sont des micro-organismes, les champignons aussi. Et dans nos composteurs, il y en a aussi. Alors les arrosages, c'est pas naturel, mais c'est quand même naturel, parce que dans la forêt, elle sèche aussi, la forêt, et elle attend la pluie. Alors je voulais parler de la chimie de l'azote, mais bon.
Mais je crois que vous serez obligé de revenir pour compléter, parce que là, il reste 5 minutes. Et donc,
oui, Janine, tu parlais de reproduire la nature. Non, le compostage, c'est pas reproduire la nature, c'est s'occuper de nos déchets organiques, voilà, qui représentent 30% de nos ordures ménagères. Mais reproduire la nature, oui, c'était le sujet suivant, c'était le paillage. Donc si vous avez un jardin, de plus en plus de personnes ont été sensibilisées à ça et le pratiquent. Au lieu de s'occuper à couper, transporter, mettre dans la remorque, voire même dans des sacs à la déchetterie, jeter à la benne et revenir chez soi, on peut laisser les déchets verts que l'on a coupés, taillés, élagués sur place. Donc le paillage, c'est quelque chose de très important aussi, et notamment dans notre région très verte, boisée, où on doit débroussailler. On a des obligations légales de débroussaillement. Bien, et je souhaitais finir en vous parlant de la prévention et gestion de proximité, qui dans nos réseaux compost citoyens, on appelle ça la PGPROX. Je vous parlais de compostage partagé tout à l'heure, quand on a commencé à parler compost, et je voulais donner un peu plus de poids à cette solution de gestion de nos déchets de cuisine et déchets de jardin. Puisque sur un site de compostage partagé, on peut accueillir jusqu'à 1 tonne de déchets de cuisine par semaine. Sachant que le déchet de cuisine, pour le compostage, doit se mélanger aux déchets verts broyés, le broyat, à raison de 0,5 pour 1, donc ça nous fait 1,5 tonne par semaine de valorisables sur un site de compostage partagé. Donc ma parole, elle veut vous dire que c'est pas anodin et que c'est quand même une solution qui est intéressante et que nos collectivités sont en train de se plonger dans la question, puisque il y a l'obligation de tri à la source des biodéchets qui est effective et qui sera appliquée à partir du 31 décembre 2023. Ça veut dire que nos collectivités, nos élus, ceux qui ont la charge de nos déchets, devront nous fournir des solutions pour que nos déchets de cuisine, on puisse les trier et les valoriser en compost. Je voulais citer quelques références de bouquins. Il y a un document qui est consultable, téléchargeable sur le net, qui a été le résultat de recherches de nombreuses années, je pense, qui a été édité en 2010 à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité et qui s'appelle l'Atlas européen de la biodiversité des sols, qui est un partenariat entre différents chercheurs européens. Ensuite, il y a un petit livret qui est aussi consultable sur le net qui s'appelle « Enquête des invisibles du sol » édité par l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et puis avec moi, j'ai ramené trois bouquins qui sont très intéressants. Si vous vous intéressez au compost et aux paillis, je vous invite à choisir chez Terre Vivante le livre intitulé « Compost et paillis » au pluriel de Denis Pépin, collègue membre du réseau Compost Citoyen. Un autre bouquin, toujours chez Terre Vivante, qui s'appelle « Les clés d'un sol vivant », écrit par Blaise Leclerc, également membre du réseau Compost Citoyen. Et enfin, la Bible, écrite par Monsieur Boucher, Marcel Boucher, la Bible sur le ver de terre, d'édition Actes Sud, et qui s'appelle « Des vers de terre et des hommes, découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l'énergie solaire ». Voilà. Et le Colibricole, site internet et une page Facebook. On vous invite à venir à nos événements.
Alors, il ne vous reste plus qu'une minute.
Bon, j'ai deux trucs à dire pour compléter ce qu'a dit Morgane, qui était super intéressant. Si sur la Terre, il n'y avait pas de déchets naturels et des animaux qui font de l'humus, la Terre serait complètement envahie de déchets. Il y en aurait des kilomètres d'épaisseur. Et alors, du coup, la Terre peut se débrouiller seule. Bon, c'est une provocation. Hein. On n'a pas beaucoup parlé de stratification du sol, mais dans les forêts, c'est très stratifié. Et dans les milieux naturels, c'est très stratifié. Alors, dans nos jardins, c'est quand on bêche, on bousille la stratification. Mais bon, on peut faire beaucoup de choses et il faut faire beaucoup de choses.
Voilà.
Merci à tous.
Merci à toutes les deux. Donc,
Janine... Et compostez, paillez.
Janine Brochier et Morgane Verbe du Colibricole et de France Nature Environnement. Merci et à bientôt. Au revoir.
Merci.